Chapitre 16. Dès qu'elle fut en vue de Tanimura, la dame abbesse des Sœurs de la Lumière constata que la ville avait changé, mais pas autant que le reste du monde. Dépassée par tous ces chamboulements, elle s'efforçait de tenir le coup parce que les Sœurs dépendaient d'elle. Après sa victoire sur l'empereur Sulakhan, le Seigneur Hal avait renvoyé Regula, la machine à présages, dans le royaume des morts dont elle n'aurait jamais dû sortir. En même temps que la machine, les prophéties avaient quitté le monde. Puis le changement stellaire avait bouleversé toutes les règles de la magie. Aux yeux de Richard Hal, c'était une bonne chose. Les Sœurs de la Lumière, elles, se retrouvaient dans la situation d'un bateau sans timonier, ses voiles déchirées par une tempête. Des millénaires durant, elle s'était consacrée à l'interprétation des prédictions, et voilà qu'il ne restait plus rien à interpréter. Pour Verna, ce retour à Tanimura était l'équivalent d'une gifle la ramenant à la réalité. Avec un contingent de soldats d'Aran, elle était chargée de consolider l'Empire. Du coup, elle voyageait sans cesse, parfois avec ses Sœurs de la Lumière, et à d'autres occasions seule sous un déguisement. Cette fois, une petite armée l'accompagnait et elle chevauchait une solide jument. Lors de leur premier voyage ensemble, quand elle le conduisait vers le palais des prophètes pour sa formation, Richard lui avait appris à apprécier une monture à sa juste valeur. Même à cheval, le voyage avait pris 10 jours, et les soldats, surtout leur chef, un jeune capitaine nommé Norcross, avaient satisfait tous les besoins de Verna, ce qui n'allait pas très loin. Cela dit, Norcross s'était assuré que sa tente soit correctement montée, que sa literie soit sèche et qu'elle soit servie la première par les cuisiniers. Après plusieurs jours de voyage, Verna avait appris que la sollicitude du jeune homme était en partie intéressée. Sa jeune sœur, Ambre, avait récemment rejoint les Sœurs de la Lumière, comme novice bien entendu. Même si elle dirigeait l'ordre, Verna ne savait rien de cet enfant. Il y avait eu tant de bouleversements ces dernières années. Chevauchant à côté du capitaine, Verna venait de s'engager sur la piste fréquentée d'où on voyait Tanimura dans sa totalité. Au-delà des bâtiments serrés les uns contre les autres, le port restait une fourmilière de navires et d'hommes. Pour Verna, ce n'était pas le premier retour à Tanimura. 20 ans durant, elle était restée loin du palais des prophètes, donc sans la protection de son sort anti-vieillissement, afin d'écumer le monde à la recherche de Richard. Après l'avoir trouvé, elle était parvenue à le convaincre, non à le contraindre, de venir au palais pour que les sœurs le forment. Le début d'une cascade d'événements qui avaient tous contribué à la réalisation des prophéties. Mais aujourd'hui, de prophéties, il n'y en avait plus.
« Une bien jolie vue, Dame Abbesse, » dit Norcross. « Ayant grandi dans les environs d'Aïdindril, c'est la première fois que je vois l'océan. » Comment font les navires pour ne pas s'y perdre?
Les capitaines pratiquent une forme de magie. Selon certains, ça s'appellerait la navigation.
Mais vous n'avez pas ordre de prendre la mer, n'est-ce pas?
Non, nous sommes ici pour fonder une garnison. Le général Zimmer a déjà réquisitionné des bâtiments sur le front de mer, et il les a fait reconstruire pour qu'ils puissent accueillir entre 500 et 1000 hommes, et ce n'est qu'un début.
Le capitaine Blond sourit à Verna. Comme d'habitude, elle remarqua que son incisive gauche, un peu tordue, lui donnait l'air d'un dur.
L'ordre impérial étant vaincu, nous établirons des garnisons tout au long de la côte, puis partout dans l'Ancien Monde.
C'est le meilleur moyen d'éviter l'arrivée au pouvoir de nouveaux tyrans,
concéda Verna. S'il restait des pins des deux côtés de la route, les collines environnantes avaient été déboisées pour fournir du combustible et du matériel de construction. Encouragée par la tiédeur de l'air, Verna aurait bien demandé une pause pour un rapide déjeuner à l'ombre, mais elle avait trop hâte d'être à Tanimura, son foyer. Derrière la dame abbesse et le capitaine, une centaine de guerriers chevauchaient vers la cité. Quand ils en furent assez près, ils passèrent devant des enclos à moutons et à chèvres, des maisons dotées de grands jardins et des bosquets d'arbres fruitiers. Puis, les habitations devinrent plus densément disposées. Certaines presque délabrées et d'autres bien entretenues malgré leur âge et les intempéries. L'œuvre de famille estimant qu'une masure méritait qu'on s'en occupe puisqu'on y habitait. Des curieux sortirent de chez eux pour voir passer les soldats précédés par l'étendard de Dara. D'une main levée, le capitaine Norcross les salua. Très droite sur sa jument noire, Verna balaya du regard cette foule souriante et ne se sentit pas à sa place. Malgré le poids de l'âge, une lueur brillait toujours dans ses yeux et ses cheveux noirs donnaient encore le change, sauf quand elle regardait ses tempes de près dans un miroir. Oui, le passage du temps l'affectait, mais il n'y avait pas que ça. Le plus écrasant, c'étaient les responsabilités qui pesaient sur ses épaules. Une dizaine de sœurs de la lumière étaient venues avant elle à Tanimura, avec l'espoir de retourner au palais des prophètes. Verna éprouvait le même désir, mais quand elle sonda la côte à la recherche de l'île Collet, son cœur se serra de tristesse. Bien au-delà du pont qui enjambait le fleuve Kern, l'île abritait autrefois un palais assez imposant pour rivaliser avec la forteresse du sorcier ou le palais des inquisitrices d'Aïdindril. Aujourd'hui, il n'y avait plus rien. Et ce, depuis que Richard avait activé l'étoile de sortilège intégrée à la structure. Ce séisme avait détruit le sort anti-vieillissement, les réseaux de protection, puis les couloirs, les salles, les bibliothèques et les catacombes. En d'autres termes, le palais s'était désintégré. Si Richard s'était résigné à le détruire, c'était pour que des trésors de connaissances ne tombent pas entre les mains de Jagang, qui les aurait utilisés pour asseoir sa domination sur le monde. Profitant du chaos ambiant, le prophète Nathan avait réussi à se libérer du Radahan qui le retenait prisonnier, puis à s'enfuir en compagnie de la dame abbesse précédente, cette bonne vieille Anna, qui en avait profité pour se faire passer pour morte. Verna aurait voulu pouvoir rendre son poste à son aîné aujourd'hui disparu. Du pouvoir, elle n'en avait jamais voulu. « L'île semble si vide, » soupira-t-elle. « A-t-on fouillé les ruines du palais ?»«
Il faudra demander au général Zimmer, » répondit Norcross. « C'est ma première visite, mais d'après ce que j'ai entendu dire, il n'y a rien à fouiller et il ne reste plus rien apparemment. »
Dans les rues de la ville, les sabots des chevaux firent résonner les pavés. Sur les places, des gamins escaladaient les façades des bâtiments pour y accrocher des bannières de Dara. Tapis dans des ruelles, des chiens aboyaient sur le passage de la colonne, mais les chevaux, aussi bien entraînés que leur maître, ne bronchèrent pas. Sans cesser de saluer, Norcross lança
« Nous vous apportons les bons vœux du seigneur Ral !»«
Seigneur Ral, seigneur Ral !»
scanda la foule. À Tanimura, Verna était bien placée pour le savoir. Les gens avaient souffert sous le joug de l'ordre impérial. Du coup, ils avaient d'excellentes raisons de saluer les victoires de Richard, même s'ils n'avaient pas été touchés lors du conflit déclenché par Hanis Ark et l'empereur Sulakan. Quand la colonne atteignit le front de mer, Verna s'emplit les poumons de l'air iodé venu du large et sourit en découvrant le port pris d'assaut par les deux mâts et les trois mâts aux cales gorgées de merveilles. Partout, des poissonniers, des vendeurs de crustacés et des colporteurs de tout poil rivalisaient de vocalises pour attirer l'attention des gens. Accoudées aux fenêtres des maisons de tolérance, des filles de joie outrageusement maquillées sourirent aux soldats et leur lancèrent force plaisanteries. Avec leur arrivée, elles savaient que leur petit commerce ne risquait pas de péricliter. Verna repéra au premier coup d'œil le nouveau quartier général de la garnison qui remplaçait des entrepôts récemment rasés. Derrière la palissade, expliqua le capitaine Norcross, des baraquements confortables attendaient les soldats. Vu l'afflux de militaires à Tanimura, on avait aussi réquisitionné un grand nombre d'auberges et d'entrepôts. Sur la palissade, les sentinelles soufflèrent dans leur corps pour annoncer l'arrivée de la colonne. Peu après, les grandes portes s'ouvrirent et des hommes en armure vinrent accueillir les nouveaux arrivants. Dès que Verna et lui furent entrés dans la cour, Norcross sauta de son étalon gris et prit la bride de la jument de sa compagne.
« Si vous me permettez de vous aider, dame abbesse, le général Zimmer voudra sans doute vous voir sur le champ. »«
Vous surestimez mon importance, capitaine. Je ne suis que votre invité. Le général s'intéressera sûrement plus au renfort que vous lui amenez. »
Norcross éclata de rire.
« Par les esprits du bien, dame abbesse, vous dites parfois des choses étranges. » « Ne mesurez-vous donc pas votre influence ?»
Verna s'abstint de tout commentaire. Avec la fin des prophéties, l'ordre qu'elle dirigeait n'avait plus de raison d'être, et son fief, le palais des prophètes, n'était plus qu'un souvenir.
« Je ne suis pas aussi importante que vous l'imaginez, »
se contenta-t-elle de dire. Son cœur se serra de nouveau quand elle pensa à Warren. D'abord son disciple, puis son cher époux, dont la mort avait dévasté sa vie.
Parfois, il lui arrivait de penser qu'être veuve était encore plus destructeur pour elle que ses fonctions de dame abbesse. Quand il s'était enfoncé dans le royaume des morts, entraîné vers l'oubli par les séides du gardien, Richard avait parlé avec l'esprit de Warren, rapportant pour Verna un message qu'elle chérissait plus que toutes les prophéties ou les proclamations du monde. Ces mots étant strictement privés, elle les gardait pour elle au chaud près de son cœur. Si elle était seule sans Warren, Verna ne l'était pas vraiment, puisqu'il lui restait des tâches à accomplir en ce monde. De plus, son retour à Tanimura impliquait qu'elle assume certaines responsabilités. Parmi les soldats venus accueillir leurs frères d'armes, Verna repéra des robes de couleur, rouge, verte et bleue, portées par des sœurs de la lumière. 10 d'entre elles exactement arrivaient avant la dame abbesse, plus une novice d'une saisissante jeunesse qui venait certainement d'intégrer l'ordre. « Ambre !» s'écria Norcross en courant vers la jeune femme. Des boucles des deux côtés du visage, Ambre avait sinon tressé ses longs cheveux blonds cendrés et ses grands yeux bleus pétillaient de joie de vivre.
« Tu en as mis du temps pour arriver, mon frère !» s'exclama-t-elle. « J'étais sur le point de chercher un autre homme prêt à me choyer. »
« Ambre, beaucoup d'hommes seraient ravis de t'épouser. Mais pour l'instant, tu es trop jeune. »«
Je suis une sœur de la lumière et je m'en flatte. »
Avisant Verna, Ambre blêmit et ajouta.
« Dame Abbesse, je suis désolée. En votre présence, je n'aurais pas dû me montrer si familière et amicale. »
Verna gratifia la novice d'un regard maternel.
« Petite, les sœurs de la lumière ne sont pas rabat-joie au point d'interdire le bonheur. » « Savoure tes retrouvailles avec ton frère. »
Baissant le ton, la dame abbesse parla autant pour elle-même que pour la charmante novice.
« Esprit bien-aimé, la souffrance ne nous épargne pas. Alors il faut prendre les satisfactions comme elles viennent. »«
Dame abbesse Verna, merci d'avoir gardé mes soldats en sécurité pendant le voyage. »
Reconnaissant cette voix puissante, Verna se retourna pour saluer le général Zimmer, un officier de 30 ans qu'elle avait connu à un grade bien moins important. La guerre ayant fait des ravages dans l'armée, il avait été promu très au-delà de ses espérances. Le cœur et l'esprit en acier, il n'avait reculé devant aucune responsabilité chaque fois qu'un de ses supérieurs s'était fait tuer. Brun et doté d'un coup de taureau, il impressionnait plus d'un vétéran. En revanche, un sourire aux lèvres, il faisait bien plus jeune que son âge. Lui prenant le bras, il guida la sœur vers le bâtiment à deux niveaux qui abritait le quartier général. En cours d'achèvement, la structure embaumait le bois fraîchement coupé. Sur le toit, des couvreurs étaient encore en train de travailler. Près du terrain d'exercice, à côté de l'entrée, se dressait un camp de tentes provisoires. Pour le moment, dans ce complexe militaire, le bruit des scies et des marteaux était aussi fort que les cris et les cliquetis métalliques des soldats à l'exercice. Zimmer conduisit Verna dans son bureau, à l'étage, où il laissait les fenêtres ouvertes afin de profiter au maximum de la brise marine. Le plancher rustique craquant sous ses pas, la dame abbesse prit place dans le fauteuil que lui indiquait son hôte.
« Dès que je vous ai aperçu au loin, dit Zimmer, j'ai demandé une infusion bien chaude pour étancher votre soif et vous inciter au bavardage. »
Zimmer sourit, puis gratta son menton où repoussaient déjà des poils drus noirs comme la nuit. Dès qu'il appela son aide de camp, un grand type entra avec sur les bras une bouilloire fumante, deux tasses en porcelaine et un petit pot de miel.
« Après une si longue route, j'ai pensé que vous seriez touché par la tension. »«
Je n'ai pas besoin d'être bichonné, général, » tint à souligner Verna, même si l'infusion lui faisait envie.
« Qui prétend que je n'en ai pas besoin ?»
répliqua Zimmer. Il servit deux tasses et ne mégota pas sur le miel.
« Quelquefois, un saint rappel des bienfaits de la civilisation nous aide à mieux combattre pour elle. »
Verna sourit et but une gorgée.
« Au miel et aux infusions, alors, et à la gloire de Dara.
Pour Dara, oui. »
Bien qu'il se soit engagé très jeune, Zimmer avait déjà tout d'un vétéran. Par exemple, il ne tardait jamais à entrer dans le vif du sujet.
Vous avez des nouvelles du palais du peuple? Mes hommes veulent savoir si le seigneur Rall compte nous rendre visite.
J'ignore tout des plans du seigneur Rall.
Avec un empire à diriger, il doit être très occupé. Un jour, fit le général, Il m'a dit que l'Empire d'Aran engloberait le monde entier. Mais comment connaître la taille du monde? Même si mon voyage fut des plus tranquilles, comme mon poste jusque-là, j'ai vu des cartes de la côte et lu des rapports sur l'ancien monde. Des villes et des villes, puis la côte fantôme et une myriade d'îles au-delà. Qui sait si nous ne connaissons pas du monde qu'un grain de sable parmi ceux d'une très grande plage?
C'est bien possible, général. Mais il y aura des explorateurs, puis des ambassadeurs. Un jour, l'âge d'or du seigneur Ral sera effectif partout.
Zimmer sourit comme s'il espérait un commentaire dans ce genre.
Dans cet ordre d'idées, dame Abbess, j'ai reçu un rapport qui peut vous intéresser. Nathan Ral, le prophète et sorcier, est passé par Tanimura il y a quelques mois.
Nathan? Vernon ne s'attendait pas à ça.
Il n'est plus prophète. Les prophéties ont disparu.
Le général ne parut pas troublé par ce détail.
Même si c'est vrai, un homme aime garder ses titres. Il était avec Nietzsche. Ici, ils ont embarqué sur un trois-mâts appelé Randonneur des vagues.
Verna s'étonnait chaque fois qu'elle entendait parler de l'ancienne sœur de l'obscurité devenue une fidèle de Richard. Pendant des années, alors qu'elle vivait au palais des prophètes, Nietzsche avait en secret servi le gardien. En somme, elle avait fait plus pour détruire l'ordre que Richard lui-même. Mais elle avait changé. Et celle qu'on nommait naguère la maîtresse de la mort était devenue une des plus solides alliées du sorcier. Verna eut un sourire dédaigneux.
Je savais que Richard les avait envoyées en mission, mais je m'étonne qu'elles soient restées avec Nathan. Je ne les voyais pas s'entendre comme larrons en foire.
Les soldats font leur devoir, dame Abbess. Même s'ils ne sont pas dans l'armée, Nathan et Nietzsche ont le même objectif, la victoire finale du seigneur Hall.
Où comptait-il aller à partir d'ici?
Et ils ont mis le cap vers le sud. Depuis, nous n'avons plus de nouvelles du randonneur des vagues. Si j'ai bien compris, ils ont pour mission d'explorer l'ancien monde, de contacter les dirigeants locaux et de leur parler du seigneur Hall. Sans doute avec l'idée de signer des traités. Bon, ils ne chômeront pas.
Zimmer leur servit une autre tasse d'infusion. Verna ajouta du miel, remua et but. Pour une boisson de garnison, le breuvage était vraiment très bon.
Même si Jagang est vaincu, reprit Zimmer, soudain grave, il reste tant de pays à découvrir. L'ancien monde semble être un terreau fertile pour les tyrans.
Verna serra doucement sa tasse, appréciant sa chaleur. Comme il était agréable de converser avec ce militaire honnête et courageux, tout en admirant une journée ensoleillée à travers une fenêtre.
Même s'il y a 13 tyrans à la douzaine là où elle est, je parie encore sur Nietzsche.